Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Nouveau projet et Urbania. Au programme, réengagement et sois bien et tais-toi. Bonne écoute.
Réengagement. À propos de 10 années effervescentes et du travail qu'il reste à accomplir. Un texte de Nicolas Langelier, paru dans l'édition Printemps-été 2022, dans le magazine Nouveau projet. Les Grecs anciens avaient deux mots pour désigner le temps, et chacun faisait référence à une conception différente de celui-ci. Le premier concept, Chronos, nous est familier. C'est le temps physique et séquentiel, celui de la succession des événements, de chronologie et de chronomètre, de chronique aussi. C'est en fonction du chronos que Nouveau projet a maintenant 10 ans. L'autre temps, Kairos, est celui du moment opportun, de l'occasion à saisir. Dans « The Dawn of Everything », paru à la fin de l'année dernière, l'anthropologue David Graeber et l'archéologue David Wengrow expliquent que le « kairos » désigne ces moments historiques exceptionnels au cours desquels une société voit ses cadres de référence se transformer, une métamorphose de ses principes et symboles fondamentaux, alors que devient floue la démarcation entre les mythes et l'histoire, la science et la magie, et qu'un vrai changement devient possible. Les philosophes utilisent parfois le concept d'événement en référence à une révolution politique, une découverte scientifique, un chef-d'œuvre artistique, c'est-à-dire une percée qui révèle des aspects de la réalité jusque-là inimaginables, mais qui serait désormais incontournable. Si c'est le cas, le kairos est le type de temps au cours duquel des événements sont susceptibles de se produire. Pour les auteurs, il ne fait aucun doute que nous vivons actuellement un temps singulier, favorable aux grandes transformations. Leur essai est d'ailleurs un appel à revoir fondamentalement notre conception du « normal » et du « possible » en matière d'organisation sociale. Graeber, décédé subitement avant la sortie du livre, ne les verra jamais se produire. Mais il avait senti la trame d'un changement, ou du moins, il avait prédit que quelque chose de grand pourrait se produire enfin, si nous nous en donnions la chance. En 2011, quand j'ai commencé à travailler à temps plein sur ce qui deviendrait Nouveau projet et Atelier 10, nous émergions péniblement de la pire crise économique depuis celle des années 1930. Le mouvement Occupy, théorisé par ce même Graeber, qui lui avait, entre autres, donné le mantra « Nous sommes les 99%, venait de nous offrir les soubresauts révolutionnaires les plus excitants des dernières décennies. L'urgence d'agir face au changement climatique se faisait plus pressante que jamais. Les institutions médiatiques et culturelles semblaient en déclin irréversible devant l'essor des plateformes virtuelles. Au Québec, les signes inquiétants d'un repli identitaire se multipliaient, alimentés par Québécois et Le Devoir, l'ADQ et le PQ, puis la CAQ. Bref, il y avait là un « kairos » à saisir pour qui souhaitait des changements en profondeur. Et ce moment est toujours propice, 10 ans plus tard, mais il risque de ne plus l'être pour bien longtemps. Nouveau projet à 10 ans, donc. Et quand je pense à tout ce qui aurait pu mal se passer, à tout ce qui s'est mal passé, d'ailleurs, souvent, je ne peux qu'être un peu surpris de nous retrouver encore ici, au terme de cette décennie, qui n'a pas été tendre avec les publications imprimées et les médias en général. En mars 2012, quand nous avons lancé Nouveau projet 01, au milieu d'une tempête de neige mouillée et d'une grève étudiante en train de prendre des dimensions magnifiques, c'était avec un espoir hasardeux que notre intuition était fondée et que nous n'étions pas seuls à partager cette soif pour un espace où développer, discuter et diffuser les idées dont nous avions besoin à ce moment crucial de l'histoire. Et si paraît Nouveau projet 21, en ce mois de mars 2022, autrement mémorable, c'est d'abord et avant tout parce que vous êtes assez nombreux et nombreuses à la partager, cette soirée. Plusieurs d'entre vous sont là depuis le commencement, mais beaucoup aussi se sont jointes à nous au fil des ans. C'est avec un immense bonheur que nous avons vu le nombre de nos abonnés passer de quelques centaines à plus d'un millier, à 2 000, puis à 3 000 aujourd'hui. Seule votre présence à nos côtés nous permet de célébrer ce 10e anniversaire et notre gratitude n'a d'égal que notre envie de continuer à vous en faire tout plein des numéros de nouveaux projets. Ce n'est pas l'enthousiasme qui manque, ni le désir de saisir l'occasion qui se présente à nous. J'écris ceci depuis les bureaux montréalais dans lesquels nous avons emménagé l'automne dernier. Je les ai d'abord choisis pour la vue, je pense. Le regard embrasse large, d'ici, des toits du centre-sud à la plaine montérégienne, du stade olympique aux tours semi-désertées du centre-ville, et je me dis que c'est ce que nous cherchons à faire depuis nos débuts. Donner de la perspective avec des textes qui s'élèvent au-dessus du train-train de l'actualité, des choses dont il faut parler juste parce que tout le monde en parle. Cela faisait partie des promesses de la campagne Kickstarter qui a lancé cette aventure en 2011 et c'est un engagement que nous renouvelons aujourd'hui. La neige de février tombe sur la ville, se mêlant à la vapeur tout aussi blanche qui s'échappe des systèmes de chauffage des immeubles et je songe à Joan Didion, décédée récemment, elle aussi. Dans ma toute première intro, je citais sa célèbre phrase selon laquelle « Nous nous racontons des histoires afin de vivre ». Celles qui nous permettent de comprendre le monde et d'oser croire qu'il y a un sens à tout ceci. C'était la raison pour laquelle nous lancions ce magazine. Trouver des sens à nos vies remplies de distractions pas toujours salutaires, raconter qui nous sommes et le monde qui nous entoure, mais aussi aspirer à devenir autre chose, à créer le monde que nous souhaitons. Et peut-être, si tout allait bien, arriver à nous sentir moins seuls. Au cœur de ce que nous proposions et de tout ce que nous avons produit par la suite, il y a cette envie de communauté, ce désir de mobiliser, de lier et d'inspirer les hommes et les femmes qui travaillent à la construction du Québec nouveau. Comment survivre à un monde où Dieu est mort et où tous les cafés font jouer le même folk-pop générique? Demandions-nous, entre autres, dans le dossier du premier numéro. Dans le folk-pop, le problème reste entier. Quant à l'absence de Dieu, entendu ici au sens arreligieux du plus grand que nous, je suis convaincue qu'elle est à l'origine d'une profonde solitude que tous les médias sociaux du monde n'arriveront jamais à consoler. L'isolement existentiel de l'être humain, devant le manque de sens de ses gestes et de sa vie en général, parce qu'il ou elle n'a de compte à rendre à rien ni à personne, pas même à sa propre conscience. Nouveau projet a été fondé sur l'idée que, face aux immenses défis auxquels nous sommes confrontés, s'imposent des remises en question fondamentales de nos manières d'être et d'agir, de penser le collectif comme l'intime. Et alors que ce 10e anniversaire force en quelque sorte le bilan, il faut bien admettre qu'à première vue, les changements qui se sont opérés ont été bien timides. Sur le plan environnemental, au premier chef, l'absence de progrès notables saute aux yeux. Les émissions de CO2 sont essentiellement au même niveau qu'en 2012, alors que des réductions radicales étaient déjà nécessaires. Nous continuons à piller les ressources de la Terre en repoussant les conséquences. Notre siècle n'est vieux que de 22 ans et il compte déjà 21 des 22 années les plus chaudes jamais enregistrées. Nous vivons dans un monde beaucoup moins riche, moins habitable, plus violent et plus injuste que celui dans lequel nous sommes nés. Et nous n'osons pas trop imaginer la vie de nos descendants-descendantes. Face à tout cela, nous restons étonnamment apathiques. Pas de révolution en vue, ni même de révolte particulière, si ce n'est celle qui s'organise lorsqu'on demande aux gens de se priver de gymnase pendant un moment. Règle générale, nous nous contentons de nous attaquer à ce que l'auteur britannique George Monbiot appelle les « micro-consumerist bollock », des enjeux somme toute insignifiants, comme les sacs et les pailles de plastique, plutôt que les grands problèmes structuraux. Cela vaut aussi pour notre vie démocratique. Si, dans ma première intro, je me demandais si la tyrannie était toujours impensable, alors qu'un gouvernement et la machine médiatico-financière qui le soutient peuvent nous faire croire ce qu'ils veulent, la suite des choses a confirmé cette crainte. Non seulement en Hongrie ou en Russie, mais aussi chez nos voisins du Sud, pourtant si fiers de leur grand récit de liberté. Chez nous également, les tendances antidémocratiques n'ont pas manqué, de Stephen Harper à François Legault, des lois adoptées sous bâillon à l'intimidation de journalistes. Le populisme autoritaire, remis au goût du jour par Thatcher et Reagan, n'a pas fini de faire des petits. Et ce n'est certainement pas la technologie qui viendra nous en sauver, alors que les milliardaires qui la détiennent se rangent systématiquement du côté des puissants, dont ils font eux-mêmes partie, bien sûr, au détriment des intérêts des 99 % et de leur collectivité. En même temps que s'accumulent les signes annonciateurs d'un effondrement généralisé, les signes encourageants semblent, eux aussi, se multiplier. Là aussi, même apathie. Nous préférons nous réfugier dans le « self-care » et l'affirmation ostentatoire de notre unicité, laissant le champ libre aux démagogues et autres individus généralement mal intentionnés. Et très bientôt, nous aurons le métavers pour nous distraire encore plus. Et tant pis si plus nous nous enfonçons dans la virtualité, moins les autres nous semblent vrais, et moins il et elle ont la valeur à nos yeux. Mais voilà, en même temps que s'accumulent les signes annonciateurs d'un effondrement généralisé, les signes encourageants semblent, eux aussi, se multiplier. Nous en avons pointé plusieurs dans nos 20 numéros et nos 20 documents, et plein d'autres restent à raconter. En 2012, nous avons choisi le camp de l'espoir, et c'est encore celui que nous habitons, alors que s'amorce notre deuxième décennie. Mais c'est un espoir informé et critique. Sans cela, l'espoir n'est que naïveté ou pensée magique. C'est l'espoir des gens qui pensent que la technologie viendra nous sauver des changements climatiques à la dernière minute, comme la cavalerie, comme Éric Desjardins à la toute fin du deuxième match lors de la finale de 1993. Au cœur de ce que nous proposions et de tout ce que nous avons produit par la suite, il y a cette envie de communauté, ce désir de mobiliser, de lier et d'inspirer les hommes et les femmes qui travaillent à la construction du Québec nouveau. C'est l'espoir aussi de la poudre lancée à nos yeux par ceux et celles qui ont intérêt à ce qu'on ne voit pas trop bien, celui du développement durable et des micro-consumerist bollock. Pour le dire avec Antonio Gramsci, nous croyons qu'il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Face aux catastrophes qui nous attendent, l'espoir que nous choisissons est à la fois lucide et radical, pour reprendre l'adjectif utilisé par le philosophe Jonathan Lear, un espoir fait essentiellement de courage et qui anticipe un bien commun espéré par des individus qui n'ont pas encore la capacité de le comprendre. Et c'est là que la notion d'histoire, jamais très loin, refait surface. Nous aurons besoin de ces histoires d'espoir radicales au cours des années et des décennies à venir, des histoires qui nous permettront de redéfinir le courage dans un monde que nous ne comprendrons plus. C'est à cette tâche que, plus que jamais, nouveaux projets s'attellent pour la suite des choses. Alors que la tempête se lèvera, continuer à produire des histoires de résilience, de solidarité et de grâce pour nous accompagner dans une nouvelle manière d'être et de vivre. Bienvenue donc à cette deuxième décennie de nouveaux projets. Le retroussage de manches et les grandes corvées sont toujours au programme. Ce numéro est le dernier d'un cycle. Nouveau projet 22, cet automne, vous arrivera sous une forme renouvelée. Le résultat, d'une part, de la mise en ligne d'un tout nouveau site web et, d'autre part, d'une envie de rebrasser un peu les cartes après 10 ans, un désir de jouer avec de nouvelles contraintes, de nous imposer de nouveaux défis et, surtout, de tenter de produire le magazine le plus adapté possible à son époque, à son moment. Parce que c'est bien beau, le passé, mais ce qui compte, c'est le présent. Ce que nous faisons de nos journées, pendant que la vie bat en nous et que notre sang est chaud. Tout le reste n'est que nostalgie ou projection. Et c'est là que vous continuerez à nous trouver au cours des années à venir. Bien ancré dans le présent de ce territoire et de ses habitants, habitantes, les bâtisseurs et les bâtisseuses du Québec nouveau que nous souhaitons continuer à informer, rassembler, inspirer. Et ce présent a beau être sombre, comme l'écrivait Fanny Britt dans notre document 15, Les retranchés, il porte en lui des promesses de lumière. Et l'une de ces lumières est la possibilité de saisir le kairos, au cours duquel des événements sont susceptibles de se produire, alors que devient floue la démarcation entre les mythes et l'histoire, la science et la magie, et qu'un vrai changement devient possible. Merci d'être à nos côtés sur ce chemin. Montréal, février 2022. C'était « Réengagement » à propos de 10 années effervescentes et du travail qu'il reste à accomplir, un texte de Nicolas Langelier, paru dans l'édition Printemps-été 2022, dans le magazine Nouveau projet. Sois bien et tais-toi. Un texte de Marie-Hélène Racine-Lacroix, paru le 11 avril 2022 dans le magazine Urbania. J'ai souvent des problèmes de santé. J'ai des douleurs chroniques. Je tombe malade facilement. Et, oh boy, on n'a pas le temps de faire un portrait de ma santé mentale. Dans les dernières années, j'ai tranquillement compris qu'une grosse partie de ma santé est déterminée par le hasard. Si c'était une question de volonté et d'effort, je serais déjà olympienne. Pourtant, je me sens coupable quand je ne vais pas bien. Capable de ne pas fournir en travail. Coupable de ne pas être capable de garder mon appartement en spick and span. Mais surtout, coupable de ne pas aller bien. Point. Même si je sais que ce n'est pas vrai, une partie de moi croit que c'est de ma faute. Une partie de moi pense que je devrais avoir honte d'être malade. Même si j'essaie de me débarrasser de cette idée, j'ai l'impression que ma valeur vient de ma capacité à prendre soin des autres. Alors, quand c'est moi qui a besoin d'aide et que je ne suis plus capable d'être là pour les gens que j'aime, je le vis comme un échec. Du haut de mes 28 ans, je commence à peine à oser demander de l'aide autour de moi et suis toujours déchirée entre l'amour qu'on me rend et le sentiment que je dérange. En lisant le super article de Kate Sears et Rachel Hughes, « L'industrie du bien-être n'est pas du côté des femmes, elle nous détourne de ce qui nous fait réellement souffrir » sur le site theconversation.com, un déclic s'est fait et j'ai enfin compris ce qui me chicotait. J'ai compris que c'est plus grand que moi. Je crois qu'il existe une espèce de culture du bien-être centrée principalement autour des personnes perçues comme des femmes. On nous dit que notre équilibre et notre bien-être sont notre responsabilité, voire notre devoir. On s'attend à ce qu'on prenne soin des autres, tout en propageant l'idée qu'on a tous les outils pour prendre soin de nous-mêmes. Ça, c'est le cas pour tous les genres, et je n'y crois pas. On n'aborde pas les problèmes systémiques ayant un réel impact sur nous, préférant plutôt mettre le blâme de notre mal-être sur une faille personnelle. Stressé par un environnement de travail toxique? T'as juste pas assez fait de yoga. C'est comme mettre un sparadrap sur une fracture ouverte. Dans l'article cité plus tôt, les autrices parlent de l'industrie du bien-être et de comment elle nuit aux femmes. Je suis évidemment d'accord. Bien sûr, je me méfierais de n'importe quelle industrie quadri-trilliardaire non réglementée, mais celle-ci vient toucher des cordes sensibles. Bien qu'elle contient une grande variété d'acteurs, dont certains sont sans doute sincères et bienveillants, un message commun semble en sortir. Notre bien-être est notre responsabilité et s'achète. Je ferais semblant d'être surprise que le problème soit le capitalisme, mais je ne suis pas tant bonne actrice. On retrouve cette industrie partout. On présente des trucs pour gérer son anxiété avec la méditation et des produits naturels dans un talk show matinal. De grandes compagnies offrent à leurs employés des conférences sur le pouvoir magique de choisir le bonheur. Des influenceurs, influenceuses, commandités ou ayant leur propre gamme de produits à vendre, partagent des messages inspirants, nous annonçant que le meilleur antidépresseur est une bonne marche en forêt, une soirée self-care et une gorgée de leur thé au B d'Assaï. Bien sûr, je suis d'accord qu'une marche, ça fait du bien. Je suis même une grande amatrice de soirées relaxes, avec une tasse de thé, un masque de boue hydratante et mon jeu vidéo Medieval Fantasy préféré. Les comédies romantiques ne marchent pas trop pour moi, OK? Je suis d'accord qu'il faut prendre soin de soi, mais j'ai réalisé que j'étais épuisée d'avoir l'impression de me battre contre plus grand que moi. Je me demande d'ailleurs si une partie de la culpabilité que je ressens vient de la pression qu'on ressent tous et toutes d'être performant, performante au travail. J'ai beau ne pas être carriériste, j'ai besoin de payer mon loyer. C'est un cercle vicieux. La société capitaliste a besoin de nous, en forme, pour faire rouler la machine. Elle nous épuise, puis elle nous vend des semaines dans le sud pour se ressourcer. C'est encore notre responsabilité de rattraper notre souffle, chacun, chacune de notre bord, alors que ce dont on a réellement besoin, c'est des meilleures infrastructures. Ça ne devrait pas être avoir la tête dans les nuages quand on demande un meilleur système de santé, des logements abordables, la sécurité alimentaire pour tous et toutes, du soutien en santé mentale ou l'équité salariale. Bref, c'est correct si ça file pas. Sois bien et tais-toi, un texte de Marie-Hélène Racine Lacroix, paru le 11 avril 2022 dans le magazine Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, Nicolas Vartman et André Lebeau à la recherche, Nicolas Vartman à la présentation et au montage.